Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série « J'ai choisi le Christ ». Et les deux thèmes que nous allons entreprendre ensemble, primo, c'est le cri dans la nuit, et secondo, j'ai soif. Nous commençons par le cri dans la nuit. « Je suis en pleine nuit », me disait une jeune maman dont les espoirs les plus légitimes semblaient alors définitivement compromis. Elle ne comprenait plus rien à rien. Sa vie était menacée car sa foi défaillait. Elle vivait les heures singulières, en vérité, du désarroi complet. Jésus-Christ aussi s'est trouvé en pleine nuit sur la croix. Oui, de midi à 3 heures, relate l'Évangile, il y a eu d'épaisses ténèbres à Golgotha. Et vers la fin de cette période, il poussa le cri effrayant, le cri qui m'impressionna tellement que je l'entendis avec mon imagination d'enfant à l'âge de 12 ans déjà. Il avait dit « Eloi, Eloi lama sabachthani ?»« mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Aujourd'hui, ce n'est plus l'effroi qui domine dans mon âme d'adulte, c'est plutôt un sentiment d'incapacité. Qui peut comprendre ce cri et qui peut sonder ce mystère? Or, un jour que Jésus-Christ était assis sur la margelle d'un puits, une femme samaritaine lui fit remarquer la difficulté réelle dans laquelle elle le voyait. Elle lui dit « Seigneur, le puits est profond et tu n'as rien pour puiser. Avoir soif, voir de l'eau à 10 mètres au-dessous de soi et ne rien avoir pour puiser. Vous qui êtes imaginatif, vous devez éprouver comme un malaise en vous représentant une telle situation. C'est bien cela que l'on ressent aussi humblement en face du cri de Jésus-Christ dans sa nuit. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah oui, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Mais viens à notre aide, car le puits est profond et nous n'avons rien pour puiser. Chers amis, en pénétrant quelque peu, très respectueusement, dans la nuit où Jésus-Christ demeura si fidèle, nous réaliserons sans doute combien pâle sont nos nuits à côté de la sienne. Mais nous y découvrirons encore un autre secret de victoire spirituelle. Livrons donc nos cœurs à l'inspiration qui nous fait discerner l'esprit de la croix. Et tout d'abord, essayons de comprendre la nuit du Christ. Souvenez-vous, chers amis, que Jésus-Christ avait dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Saint Jean chapitre 8, verset 29. Ô mon Dieu, qu'ai-je fait de mal pour que je ne réalise plus ta présence? Souvent, une réponse nous est donnée quand, dans nos nuits, nous lançons une telle question. Alors, nous pouvons nous repentir et, en recevant le pardon offert, retrouver la communion avec Dieu. Mais si Jésus-Christ s'est posé cette même question, elle est restée sans réponse. Il n'a jamais rien fait, qui que ce soit, ou si vous voulez, il n'a jamais rien fait qui soit désagréable, carrément désagréable à Dieu le Père, jamais. Et pourtant, voyez-vous, il semble qu'il ne réalise plus la douce présence momentanément de son Père. Cela vous est-il déjà arrivé? Alors, dans ce cas, c'est la nuit. Jésus-Christ, le croyant, le clairvoyant en toutes choses, avait encore déclaré aux siens « Voici l'heure vient » et elle est déjà venue où « Vous serez dispersés, oui, chacun de son côté, et vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Saint Jean, chapitre 16, verset 32. Donc, la première partie de cette déclaration s'était bien réalisée. Les siens l'avaient bel et bien abandonné. Mais la consolante assurance qui traversait cette perspective de solitude humaine, l'assurance de la présence continuelle du Père, Jésus-Christ sur la croix, la voix attaquée et même chancelée. Toi aussi, ami converti, tu as connu peut-être ces moments de vide affreux. En vérité, l'accomplissement d'un ministère, la fidélité à notre vocation de chrétien ou à notre devoir humain peuvent nous faire passer par de bien étranges nuits. Il faut le savoir afin de ne pas être complètement désarçonné quand cela nous arrive. Les chrétiens authentiques, ayant quelques années d'expérience, ont tous connu ces épreuves de fidélité au travers de certaines heures mémorables qui furent auparavant celle de la puissance des ténèbres. C'est écrit dans Saint Luc chapitre 22, verset 53. La nuit paraît donc douce dans le domaine de la nature, me disait une âme d'élite. Mais dans le domaine spirituel, il y a des nuits chargées de puissance écrasante. Oh oui, amis chrétiens, avez-vous déjà connu cela? Le Maître aussi, croyez-moi, y a goûté. Et ce sentiment de solitude à l'égard de Dieu fut certes une crucifixion dans la crucifixion. Mais avons-nous déjà pensé à l'effet que son expression dut produire sur ceux qui entendirent ce cri dans la nuit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les pharisiens, pas très rassurés malgré tout, avaient déclaré quelques 3 heures auparavant, « Il s'est confié en Dieu, eh bien, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. » Or, voyez-vous, Jésus-Christ, qui n'était pas descendu de la croix, venait, semble-t-il, de donner raison à ses détracteurs. Il paraissait avouer cette foi que Dieu l'avait bel et bien abandonné. Et ces pharisiens avaient donc certaines raisons de croire que Dieu s'était détourné de lui. Ils se trompaient cependant, comme se trompent les chrétiens juges qui décrètent parfois que le déplaisir divin est manifeste dans la vie de tel ou tel. Personne n'a le droit d'interpréter le désarroi des autres. Il n'y a que ceux qui sont possédés par l'esprit de l'Antéchrist qui puissent s'en réjouir, même secrètement. Oui, amis chrétiens, gardons-nous bien de juger. Les plus belles âmes que j'ai rencontrées étaient parmi celles qui connurent le plus de combats et de plus de peines. Notre vocation n'est pas de juger, mais c'est d'aimer. Un de ceux qui durent doublement souffrir et pour lequel j'éprouve une réelle sympathie fut le brigand Zélote, tout nouvellement converti, rappelez-vous. Y avez-vous songé? Oui, Jésus-Christ lui avait dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Oui, en effet, rappelez-vous, il avait bel et bien dit, Jésus-Christ, que aujourd'hui, il serait avec lui dans le paradis. Et maintenant, lui, le jeune converti, vient d'entendre le Christ crier dans la nuit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y a de quoi de pouvoir s'étonner. Ah oui, bien sûr, les jeunes chrétiens peuvent être désarçonnés par certaines expériences apparemment et momentanément négatives de leur directeur spirituel. Cela aussi fait partie des possibilités qu'il faut être prêt à affronter si l'on veut demeurer fidèle au Seigneur. Il y a environ 34 ans, Harold Groves et sa toute jeune femme partirent comme missionnaires aux Indes. Ils avaient à consolider dans la foi une assemblée de nouveaux convertis. Hélas, la première chose que Harold a dû faire en arrivant à destination était de creuser une tombe pour y ensevelir sa femme. Pourquoi? Oui, pourquoi? Quelle question pour lui, mais aussi quelle épreuve de foi pour les jeunes convertis qui assistèrent à cette apparente défaite, car la défaite était qu'apparente. Oui, chers amis, nous avons pénétré un peu dans cette étrange mais très réelle nuit de Golgotha. Nous avons entendu le cri déchirant du Christ si fidèle à sa parole, à lui-même et à Dieu le Père. Et cela, malgré tout ce qu'il y avait d'incompréhensible dans sa situation de solitude. Nous avons aussi esquissé l'effet que sa douloureuse exclamation produisit sur plusieurs. Cependant, nous ne nous sommes pas encore demandé pourquoi Jésus-Christ a lancé ce cri. Ah, c'est qu'il était bien le Fils de l'homme. Oh oui, c'était le Fils de l'homme, notre frère sans péché, expiant à la place des coupables, n'oublions pas. Quelqu'un a dit que Socrate est mort comme un stoïque, tandis que Jésus-Christ est mort comme un dieu. C'est éloquent, mais ce n'est pas vrai. Car Jésus-Christ a voulu être semblable à nous. Il a pris notre nature et il s'est chargé, lui, croyez-moi, de tous nos péchés. Et oui, il a souffert et vaincu non seulement comme un sauveur divin, mais aussi comme un frère, comme notre frère. Les souffrances physiques font crier, et parfois même les hommes les plus braves, même les meilleurs chrétiens. Voyez-vous, il y avait un serviteur de Dieu en Bulgarie. Il a tellement hurlé, c'est ce qu'il nous a raconté plus tard, quand on le tortura sous la fausse accusation d'espionnage. Chers amis auditeurs, il n'est nulle part demandé aux chrétiens d'être des sortes de fakirs et de ne jamais gémir dans la souffrance. Jésus-Christ a été vrai. Il ne savait pas jouer la comédie. Il a crié avec ceux qui crient à l'heure des grands maux physiques ou des grandes souffrances spirituelles. Comme il est vraiment, oui vraiment, proche de nous. En vérité, il est vraiment l'ami plus proche qu'un frère de ceux qui veulent cheminer avec lui. Je ne sais pas si vous serez de mon avis, mais il me semble que ce fut pire que ce cri et qu'il a été probablement également le silence, qui est aussi quelque chose de tout à fait terrible. Ce silence de 3 heures qui a précédé tout cela. Un silence de 3 heures sans communication, sans le débat des pensées adverses sous l'assaut des puissances des ténèbres. Vous le savez bien, le silence parfois entre ceux qui devraient s'aimer, c'est-à-dire communiquer, est ce qu'il y a souvent de plus difficile à supporter. Certains jours, je voudrais hurler devant l'attitude de mon mari, me confiait une chrétienne éplorée. « Oui, lui répondis-je, je vous comprends parfaitement, et c'est peut-être ce qu'il nous faut faire. Cependant, vous ne devez pas le faire d'abord à la face de votre mari. » Allez simplement en un endroit où il ne va pas vous entendre. Et là, laissez échapper le cri de votre âme devant Dieu. Et quand cette sœur dans la foi a fait cela, elle évita sans doute une grave dépression nerveuse et même un internement. Ça peut arriver. Et si quelqu'un parmi vous se sentait dans une telle situation, prêt à éclater à cause de son secret ou de sa souffrance, qu'il s'ouvre simplement, humblement, à un serviteur de Dieu avisé. Et s'il en éprouve le besoin et en a la possibilité, qu'il se retire à l'écart et loin de toute oreille humaine, laisse son âme crier à Dieu. Et en cela, vous ferez comme Jésus-Christ l'a fait à la croix, quand il était là, pendu à cette croix terrible. Chers amis, avons-nous perdu un secret de libération en ne sachant plus, absolument plus crier à Dieu? Personnellement, je suis prêt à le croire. Et ce cri, qu'était-il vraiment? Il fut certainement plus que l'expression d'un doute, plus qu'une question angoissée. Ce fut un cri libérateur, un cri brisant le silence démoniaque, mais ce fut surtout une prière. Jésus-Christ n'a pas perdu Dieu, son Père. Oh non, il lui parle. Et parler à Dieu, c'est prier. Prier, c'est demander, dit-on couramment, mais prier parfois, ça peut être aussi interrogé. Jésus-Christ se sent abandonné, lui, le si parfaitement fidèle. Et n'en pouvant plus, il lance dans la nuit sa prière interrogative, la prière lancée avec force vers Dieu son Père. C'est aussi cela, la victoire de l'Esprit de la croix. Car si l'Esprit de Christ nous anime, nous saurons lancer le cri de notre âme dans nos nuits étranges. La prière véhémente jaillira et percera le silence écrasant. Chers amis, depuis combien de temps n'avez-vous plus prié Dieu le Père? Pouvons-nous penser que cette prière, la prière suprême du Christ, soit restée sans réponse? Quelques-uns se l'imaginent, mais pas moi, car je suis convaincu que le Seigneur entendit aussitôt la réponse. Il entendit venant à lui, non pas avec la voix du tonnerre, mais dans le témoignage qui parle à l'intérieur des vrais enfants de Dieu. Et que lui dit-elle, cette voix? Le seul message vrai, le seul qui pouvait être dit, c'est « Mon fils, je suis avec toi et je souffre avec toi. » L'apôtre Paul ose affirmer la même chose quand, sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, il proclame cette vérité que nous chrétiens, oui, nous chrétiens, ne devons jamais perdre de vue en contemplant la croix. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Je répète, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Un peintre spirituel a su représenter dans son langage d'artiste cette bouleversante vérité en peignant une toile que l'on pouvait admirer dans une église du centre de l'Italie. Quand on regarde ce tableau, on ne voit d'abord que le Christ en croix. Et puis, avec étonnement, on distingue une forme derrière lui. Elle représente naïvement le Père. Et l'on s'aperçoit alors que les clous qui traversent les mains du Fils blessent également les mains du Père, que les clous qui traversent les pieds du Fils blesse également les pieds du Père et que son côté est pareillement percé. Car voyez-vous, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. C'est cela, compatir, c'est souffrir avec. Je répète, c'est cela de compatir, c'est de souffrir avec. Et quel Dieu servent-ils, chers amis, ceux qui disent que le Père s'est détourné carrément de son Fils au moment de la croix? Oui, quel Dieu servent-ils, ceux qui disent ces choses-là? Cette théologie de l'abandon n'est pas du tout la mienne. Même quand on croit l'étayer au nom des principes de la justice, moi je crois en un Dieu compatissant. Mon Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Alléluia et gloire à Dieu. Amis chrétiens, dans certaines de tes nuits. Lance simplement le cri de ton âme vers le ciel et libère-toi violemment du silence qui étouffe et qui cherche à détruire l'amour. Et puis écoute attentivement cela. Tu entendras toi aussi la voix de celui qui, ayant été éprouvé comme toi, de toute façon, et ayant triomphé, il te dira avec les accents de sa compassion, « Ne crains rien, car je t'aime. Oui, je suis avec toi. Avec toi, comme Dieu était dans le buisson d'épines qui brûlait, mais ne se consumait jamais. Avec toi, comme il était avec moi à la croix. Avec toi, là où tu es, puisque mon Esprit Saint demeure en toi. Voici, dit le Seigneur, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin. » Saint Matthieu, chapitre 28, verset 20. Cette assurance est le salut suprême des chrétiens nés à nouveau et chaque jour et à toujours. Oui, le cri dans la nuit est le moyen du triomphe possible de l'esprit de la croix sur les heures de la puissance des ténèbres. Notre deuxième thème, c'est « J'ai soif ». Voyez-vous, dernièrement, une dame ayant soigné et veillé un être cher durant plusieurs jours et plusieurs nuits sans relâche, elle a dit « Pendant ce temps, je n'ai ressenti ni faim ni soif. » Et c'est assez souvent le cas, tant que dure une action soutenue qui nous prend tout entier. Ainsi, ce n'est qu'après avoir dépassé victorieusement les plus rudes assauts spirituels et physiques que Jésus-Christ en croix lança cette exclamation si poignante dans sa simplicité. J'ai soif. C'est curieux, les associations d'idées, quand j'ajoute cet appel pathétique, je vois les lèvres boursouflées et la langue desséchée de certains grands malades. Et je vois aussi un ex-légionnaire mourant de soif dans le désert. Et je vois encore un père qui ruinait sa famille en buvant. Et j'entends aussi l'Évangile. Jésus-Christ dit un jour, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne simplement à moi. » Le buveur dominé par sa passion peut donc aller au Christ et carrément être délivré. Ah oui, il le peut. Et s'il demande sa délivrance en la voulant et en prouvant par des actes qu'il la désire, Jésus-Christ le guérira de sa mauvaise soif. C'est ce qui est arrivé entre d'innombrables autres, à ce père de famille auquel je pensais tout à l'heure, et c'est aussi ce qui est arrivé à l'ancien légionnaire qui, en 1944, a raconté sa surprenante expérience. S'étant converti, il s'est donc converti à Jésus-Christ alors qu'il était à la Légion étrangère. Il fut, à partir de ce moment-là, l'objet des sarcasmes et des persécutions de ses camarades. avant une action dans le désert, l'un d'eux avait réussi à vider malinement la gourde d'eau de réserve de notre ami. Après un engagement physique particulièrement éprouvant dans le désert, Jean, c'était son nom, a voulu boire, mais sa gourde était vide. On le regardait, mais il poursuivit courageusement son chemin sans boire. Cependant, après quelques étapes, sa soif était devenue intolérable. Et c'est alors qu'il s'éloigna un peu dans le creux d'une dune et il a crié sa détresse à Dieu. Et le Consolateur est carrément venu sur lui. Le Saint-Esprit l'a visité, le ravit de joie, et cet ami, rafraîchi d'une façon surnaturelle, sans savoir ce qui lui arrivait, se mit à adorer Dieu dans une langue qu'il n'avait jamais apprise, et tout à fait selon que l'Esprit lui donnait de s'exprimer. Oui, j'ai soif. Et cette fois, c'est Jésus-Christ qui le dit. Et notre attention doit se concentrer sur son drame. Que va-t-il se passer? Jésus-Christ est entouré de tant de dureté, tant de pensées négatives, méchantes. Chers amis, ne soyons pas facilement rebutés par l'apparente dureté de certains êtres, car il y a plus souvent qu'on ne le pense des hommes sensibles parmi ceux qui passent pour des durs. Et les soldats romains qui gardaient les suppliciés n'étaient pas des mauviettes, oh non. Ils avaient fait l'expérience horrible de la guerre. Au jour marqué, en quittant leur quartier d'Antonia à Jérusalem pour escorter les droits condamnés, chacun avait touché dans une cruche de terre une ration de posca. La posca était la boisson des Romains en campagne. C'était un mélange d'eau et de vinaigre. Pour préserver le liquide de la poussière qui régnait en maîtresse partout et pour permettre une certaine évaporation réfrigérante, on bouchait le col de la cruche avec une éponge. Or donc, le détachement romain avait escorté, exécuté et gardé tous les commandements. Simple routine, dirons-nous. Cependant, tant de choses étranges s'étaient produites, et parmi elles, l'attitude du crucifié du centre n'avait pas manqué de frapper les soldats. Pouvez-vous en voir l'effet sur ces hommes rudes? Remarquez celui-ci, par exemple. Qui est-il? Et d'où vient-il? Quel est son nom? Autant de questions sans réponse. Cependant, nous le devinons à sa nervosité. Il est troublé et il voudrait bien faire quelque chose pour celui dont on s'est tant moqué et qui est si différent, totalement différent, des condamnés habituels. Il a déjà songé au moyen de lui donner un peu à boire. Et quand le roseau est trouvé et que l'éponge y est fixée, Jésus-Christ, qui sait discerner les moindres désirs de bonté et les encourager afin qu'ils se transforment en actes, Jésus-Christ dira simplement « J'ai soif ». Le Romain s'élance carrément pour accomplir sa bonne action. Mais voilà, on le retient en lui criant « Laisse, ce n'est pas ton affaire ». Se trouve-t-il quelqu'un pour dire que ce malheureux n'a pas voulu du vin soporifique qui lui était offert? Qu'il ait soif maintenant, cela se comprend. Et dans ce cas, c'était prévu que les condamnés de cette façon avaient le droit à recevoir du vin soporifique pour atténuer, pour un peu endormir, en quelque sorte. Et c'est vrai, Jésus-Christ avait refusé tout doping. Il avait voulu affronter ses combats en pleine conscience, c'est cela, et en étant tout simplement lui-même. Et il avait repoussé le vin mêlé qui atténuait en quelque sorte la souffrance en altérant la personnalité. S'il s'est trouvé quelqu'un pour le lui reprocher, nous ne le savons. Mais hélas, combien de fois n'avons-nous pas été scandalisés par des raisonnements semblables chez ceux qui se trompent eux-mêmes tout en se croyant des chrétiens accomplis? Un tel n'a pas voulu accepter la grâce. Ce n'est que justice qu'il souffre maintenant. Et c'est ce que pensent et parfois disent certains égarés. L'esprit qui inspire de telles pensées n'est pas tellement celui de Christ. D'autres spectateurs, en essayant de retenir le geste de miséricorde du Romain, disaient « Ah, laisse donc, voyons, si Élie viendra le secourir, essayons de voir cela. Voyons un peu si vraiment Élie va venir le secourir, selon saint Matthieu, chapitre 27, verset 49. Ce sont les partisans du miracle à tout prix, de la délivrance qui ne doit venir que d'en haut, évidemment, alors qu'ils ont tout ce qu'il faut, au fond, pour secourir eux-mêmes. Car l'œuvre de Dieu a besoin d'argent, que Dieu lui en donne, c'est ce qu'on dit. Prêter, jamais. Il y a des banques pour le faire. Aider, jamais. Il y a des institutions de bienfaisance. Tout cela, constatons-le, ne ressemble guère à l'esprit et à l'enseignement de Jésus-Christ. Cependant, le légionnaire romain ne se laisse plus retenir. Il trempe l'éponge dans la posca et donne à boire à Jésus. Parfois, on est étonné du peu de bonté de ceux desquels on attendait vraiment quelque chose. Mais bien plus souvent, on est bouleversé par la bonté de ceux desquels on n'attendait rien du tout. Mais oui, voyez-vous, les actes de bonté gratuite sont pleins de grâce. J'ai soif. Et maintenant, chers amis, posons-nous les questions qui sont l'objet principal de nos méditations. Où donc se trouve la manifestation de l'esprit de la croix dans cet appel. Contient-il lui aussi un secret de vie spirituelle et sociale? J'avoue que le secret est ici plus subtil à déceler. Cependant, vous le découvrirez certainement. Écoutez toujours, j'ai soif. Je voudrais juste dire un petit témoignage. Quand nous avons malheureusement, ma merveilleuse épouse et moi, passé par la faillite, et où nous avons tout perdu, on nous avait, selon la loi suisse, évidemment, enlevé même presque tout le mobilier. Vous savez comment la loi est. Un matelas, deux tabourets ou une chaise, et le strict minimum pour survivre. Et là, moi qui étais encore à ce moment-là à l'hôpital, et je revenais en train, et pendant ce temps, ma femme est allée vers un ancien d'une communauté chrétienne qui, lui, avait la chance d'être passablement fortuné, puisqu'il possédait beaucoup de vignes. Et en ce temps-là, il n'y avait pas la concurrence italienne, espagnole, portugaise, etc. Et donc, elle est allée pour lui demander s'il pouvait empêcher qu'on nous enlève tout, prêter une certaine somme d'argent. Mais cet ancien a ouvert la Bible dans l'Ancien Testament et il a dit simplement à ma femme, si Dieu vous a pas, disons, en quelque sorte béni, comme il a béni Abraham, c'est tout simplement qu'il y a une désobéissance chez vous ou un interdit. Alors ce n'est pas à moi de vous aider. Repentez-vous d'abord. Et ce jour-là, c'était janvier, très froid, et elle a voulu aller se noyer. Mais par amour pour moi, elle ne l'a pas fait. Et moi qui étais dans le train, j'étais face à une jeune dame d'une très grande beauté et qui a tout de suite vu que j'étais soit très malade ou que je revenais d'une grande maladie. Et elle a dit, vous êtes dans un piteux état. Et je me suis senti à lui raconter notre histoire. Aussi, elle a dit ceci. Je suis évidemment pas une sainte, bien loin de là, puisque je suis ce qu'on appelle vulgairement une fille de joie dans un hôtel de luxe de Paris. Et elle a dit, mais je veux quand même vous donner une leçon. Voyez-vous, cet hypocrite qui se dit chrétien dans le sens Christien, disciple de Christ, il n'en est pas, car autrement, il aurait tendu sa main de compassion à votre femme pour l'aider, puisqu'il en avait des grands moyens. Eh bien, moi, la femme perdue, qu'on devrait lapider, car selon votre Bible, on lapidait quelqu'un comme moi. Eh bien, soyez lundi matin au bureau de l'officier de poursuite et faillite, soyez-y à 9h, à l'ouverture. Quand je suis arrivé à l'appartement vers ma femme, je lui ai raconté tout cela, et elle a prié, et elle m'a dit, « Eh bien, le Seigneur me met dans le cœur qu'il te faut y aller, car il y aura un miracle. » Et lundi matin, j'étais là, à l'heure, à 9h pile. Aussi, j'ai dit, mais vous pouvez rien faire. Elle a dit, mais la leçon va seulement commencer. On est entré dans le bureau de l'officier, et là, elle a dit, combien d'argent faut-il pour empêcher que tout, absolument tout, soit enlevé et que la ruine soit totale pour ce couple. L'officier a dit, oh, il faut 17 000 francs. Et sachez que il y a environ 50 ans, puisque j'en ai 83, il y a environ 50 ans, 17 000 francs était une toute autre somme que 17 000 francs aujourd'hui. On ne peut pas comparer. Elle a ouvert son sac à crocos et elle a sorti ses grands billets en ce temps-là. C'était presque des lavettes. Elle a sorti 17 billets de 1000 francs qu'elle a jeté sur le pupitre de l'officier de poursuite et faillite, et elle lui a dit, est-ce que c'est suffisant, c'est en ordre? Il a dit oui, mais il y a un problème. C'est qu'ils ne pourront jamais, jamais vous rendre cet argent. Elle lui a répondu, mais ça, c'est pas votre problème. Et on est sorti, elle avait le reçu, un grand papier, il y avait beaucoup de vent dehors, c'était au bord du lac Léman. Et là, elle a déchiré ce grand papier, ce reçu, en des centaines de morceaux qu'elle a jeté dans le vent et elle m'a dit, maintenant, y a-t-il une preuve que vous me devez quelque chose? J'ai pleuré. Et c'est juste pour vous dire qu'il y a des choses qui nous dépassent. Une fille de joie a tendu la main charitable. Que penser de tout cela? Ça donne à réfléchir. Ah oui. Mais revenons à notre histoire. Jésus-Christ adresse cette requête à ceux qui l'ont crucifié, j'ai soif. À l'esprit de pardon et d'humilité que cela révèle. Ne trouvez-vous pas, chers amis? Et là, il y a une demande faite dans cet esprit qui est celui de la croix, qui peut produire des merveilles. Elle peut même briser l'inimitié. Oui, une jeune fille dont la conduite avait été très mauvaise fut réprimandée par son père, qui du reste le fit avec beaucoup d'amour. Oh oui. Mais la jeune fille, révoltée, entra dans une grande colère et elle a fait ses valises. Avant qu'elle ne parte, son père lui déclara encore avec une très grande tendresse, « Mon enfant, souviens-t'en. Oh oui, souviens-toi, si tu as besoin de nous, tu nous trouveras toujours prêts à t'aider en n'importe quelle circonstance. » la cruelle réponse vint, cinglante, comme un fouet. J'aimerais mieux crever, crever de faim, que de vous demander quelque chose. Cet esprit démoniaque n'est pas le bon, croyez-moi. Et 5 ans ont passé. Or la mère est tombée gravement malade de chagrin. Le père, ayant appris où était sa fille, réfléchit, après avoir prié, à ce qu'il pourrait faire pour elle. Et, comme j'ai dit, après avoir prié, il lui envoya le télégramme suivant. Chérie, maman bien malade, personne pour soigner. Peux-tu nous rendre le service de nous dépanner quelques jours, s'il te plaît, baiser papa. Et cette fille, enfermée dans sa révolte inutile, repassa par cette porte ouverte. Elle revint vers les siens, et ce fut un commencement de vie nouvelle pour elle, et aussi pour ses parents. Chers amis, dans l'incident que nous avons rappelé, la croix nous livre un secret de retrouvaille, un moyen à utiliser pour tenter de gagner nos ennemis et les sauvons de la prison carrément de leur inimitié. Ce secret, vous pouvez l'utiliser, car le voici, dans l'humilité, demander simplement un service à ceux avec qui l'on est en froid ou que l'on pourrait considérer comme des ennemis. Oui, j'ai soif. C'est ce qu'a dit Jésus-Christ à ceux qui l'avaient crucifié. Et par cette requête, il se fit un ami de plus, un être qui fut reçu dans le ciel même au jour de sa propre mort. Ah oui, chers amis, on dit que l'on n'est pas sauvé par les œuvres. Certes, cette affirmation est une partie importante de l'Évangile. Lisez Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Mais, sans doute, très spécialement pour ceux qui ignorent l'Évangile de grâce, il existe aussi d'autres déclarations à ne surtout pas oublier. Celle-ci, par exemple, de Matthieu chapitre 25, versets 34 à 40. Au jour du jugement, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, « Seigneur, mais quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ? Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, il faut ajouter de mes sœurs, eh bien c'est à moi que vous l'avez fait. » Notez aussi le verset 46 de Saint Matthieu chapitre 25. Jésus-Christ dit « J'ai soif » et aussitôt l'un d'eux courut et lui offrit à boire. Légionnaire romain inconnu, à toi comme à tous ceux qui te ressemblent par l'ignorance, mais aussi par l'esprit de ton geste, Christ dira un jour, « J'ai eu soif, et tu m'as donné à boire. Entre dans la félicité. » Seigneur, ô que tu es bon, et comme nous aimerions te ressembler. Frères et sœurs, par l'Esprit de Christ, provoquons chez les autres les œuvres qui les sauveront de leur isolement. Et nous-mêmes, faisons le bien avec les moyens qui nous sont confiés. Que la vie est belle quand on exerce et qu'on s'exerce surtout à ce double privilège, car être chrétien, c'est aussi cela. Chers amis, avant de prier ensemble, j'aimerais, ou plutôt j'ai dans le cœur, de vous donner quelques mots que l'Esprit Saint désire me donner pour vous, maintenant. Et ensuite, nous prierons ensemble. Jésus-Christ vient pour vous libérer. Gardez-vous cependant de ne vouloir être affranchi que des conditions de vie qui vous sont faites. Demandez plutôt à être affranchi des liens qui vous attachent à la terre en raison de vos penchants, et qui vous empêche d'accéder au royaume où l'on sert dans la liberté parfaite. Vous accédez à une vie nouvelle. Vous ne sauriez manquer de le faire si du moins vous secouez les misères, les fautes et les défaites qui vous reviennent et qui vous rive à la terre. Vos fautes passées sont impuissantes à vous tenir ligotées. Comptez sur Jésus-Christ, et vous serez libérés, et vous serez pardonnés. Laissez agir sa force sans plus attendre, et vous aurez la victoire. Rien ne saurait empêcher votre nécessaire résurrection, rien de ce qui appartient au passé. Chers amis, nous allons terminer maintenant par la prière. Seigneur, comblé de tes grâces et de tes bienfaits, nous devons te bénir et d'adresser nos plus ferventes actions de grâce. Pendant la journée qui s'achève, tu as veillé sur nous et nous as protégés de mille manières. Mais comment avons-nous répondu à ta sollicitude paternelle? Comment avons-nous rempli notre devoir envers toi? Comment avons-nous observé tes divins commandements? Qui osera lever les yeux vers toi avec le sentiment d'avoir accompli toute sa tâche et de n'avoir enfreint aucune ordonnance de ta loi sainte? Qui osera te dire « Donne-moi, Seigneur, la récompense qui m'est due et que je mérite par mes œuvres. » Hélas, un tel langage ne peut être celui des tristes enfants d'Adam, car le mal est attaché à notre nature. Notre cœur l'aime plus que le bien, quand notre vie est louable et pure aux yeux des hommes. Les pensées, les mouvements secrets de notre cœur et de notre esprit sont trop souvent souillés d'égoïsme, d'orgueil, d'envie, de légèreté et tant d'autres dispositions coupables qui nous éloignent de toi. C'est donc en nous humiliant profondément devant ton trône de grâce que nous devons élever vers toi nos mains suppliantes. Ô Seigneur Jésus, tu as donné ta vie en rançon pour nos âmes, et c'est par ton sacrifice que nos péchés sont expiés. C'est par toi seul que nous sommes justifiés et que nous obtenons grâce et miséricorde. Aie pitié de nous et sauve-nous afin que nous ne périssions pas. Nous implorons tes bénédictions, ô notre Dieu, non seulement sur nous, mais sur nos familles, sur nos amis, sur les malades, les affligés, que ce soit pour eux, oh oui, que ce soit pour eux et pour nous, vraiment un temps de repos en toi, qu'elle nous prépare à reprendre notre cours avec courage et avec un désir sincère de te servir et de t'être fidèle dès maintenant et à jamais. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Ça, c'est une réalité. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis et merci pour l'intérêt que vous portez à ces études et j'espère que certains d'entre vous auront le cœur et le plaisir d'écouter la suite ou les suites de cette série « J'ai choisi le Christ » et après, il y aura encore beaucoup de séries merveilleuses, pour autant évidemment que Dieu me donne la vie jusque-là. Soyez bénis, à bientôt à nouveau. Au revoir, mes très chers amis.